Eh bien, bonjour, ou rebonjour à tous. Nous allons donc parler de Monsieur Spock à la réalité, faire des sciences dans l'espace. Et donc pour ce faire, nous avons un panel ici, donc Elisa Cliquet Moreno, qui est ingénieure à la direction des lanceurs du Centre National d'Études Spatiales, hein, l'agence spatiale française, où elle travaille actuellement à la sous-direction technique sur le pilotage du lanceur Ariane 5, et qui donc est spécialiste de propulsion spatiale, et plus particulièrement s'intéresse à la propulsion cryotechnique et autres modes de propulsion avancée, dont on aura peut-être des détails, et qui est, sinon, à part ça, passionnée d'exploration spatiale et membre de l'association Planète Mars. Elle est notamment l'auteur du chapitre dédié à la propulsion sur le livre Embarquement pour Mars, 20 défis à relever. J'ai à côté de moi Simon Bréhan, qui lui est maître de conférence en littérature française à l'université Paris-Sorbonne, hein, et qui est auteur d'une thèse donc, sur la science-fiction en France, théorie et histoire d'une littérature. Tu es Anthony Valla, tu es professeur de philosophie et de sociologie à Haute École de Santé à Lausanne et tu as récemment commis un essai donc sur Isaac Asimov, plus exactement
sur Utopie et raison dans le cycle de fondation d'Asimov.
Voilà, et évidemment à ma gauche, j'ai celui à qui nous devons une bonne partie des choses qui arrivent ici, donc j'ai Hugo Béagamba, récompensé par le prix Rony Aîné en 2005 et 2012, qui est aussi auteur de romans, et dont le dernier roman, en fait l'origine des victoires, est cette année, et qui va nous parler donc de son enfance et de Monsieur Spock.
C'est moi qui commence.
Puisque, absolument, c'est toi qui commences.
Alors bonjour, rebonjour pour ceux que j'ai déjà vus ce matin. Mille excuses d'abord, je tiens à faire des excuses personnelles pour avoir dû abréger la rencontre avec Étienne Klein. Mais malheureusement dans la programmation, il faut bien que chaque table ronde trouve sa place. Il faudra penser au futur peut-être à des tables rondes plus longues, mais ça voudrait dire qu'il y en aurait moins. Donc bref, enfin, en tout cas mille excuses pour ceux qui sont toujours dans l'attente qu'on aille beaucoup plus loin, mais on essaye de vous donner un maximum de choses. Alors cette table ronde, moi je l'ai imaginée, parce que je pense que Star Trek, la saga Star Trek, donc non seulement la série originale de Gene Roddenberry, mais tous ses avatars, Star Trek Nouvelle Génération, Voyager et autres, jusqu'au dernier Enterprise, Star Trek est une authentique série de science-fiction et elle a ceci de particulier par rapport à beaucoup d'autres séries de science-fiction qu'elle interroge les sciences pratiquement à chaque épisode. Et moi, ce que je voulais témoigner avec cette table ronde pour commencer, c'est l'idée que, oui, dans mon enfance, effectivement, je regardais Star Trek avec, évidemment, les yeux émerveillés de l'enfant, en regardant tous ces mondes nouveaux et étranges vers lesquels l'équipage de l'Enterprise allait aborder et explorer et découvrir, etc. Mais je ne voyais pas vraiment la science dans Star Trek. Pour moi, c'était vraiment la science-fiction très très légère, très aventureuse, très voilà, avec beaucoup d'extraterrestres, beaucoup de drames, etc. Mais je ne la voyais pas pour une série qui se nourrissait de science. Et pourtant, j'aimerais bien qu'on montre à l'écran ce que l'image d'un des personnages principaux, voilà Monsieur Spock, mi-vulcain, mi-humain, personnage essentiel de l'Enterprise, officier scientifique, âme damnée ou Jiminy Cricket du capitaine Kirk. Et ce personnage, à chaque épisode de la série originale, pour ceux qui s'en souviennent, était dans une problématique, dans un questionnement scientifique. Alors bien évidemment, on a cette phrase très célèbre de Spock qui dit « Mais tout ceci est-il logique? Tout ceci ne correspond pas à mon raisonnement logique ?» Mais derrière cette réflexion sur la logique, cette rhétorique un peu vulcaine qu'on trouvait à chaque épisode, il y avait en réalité un questionnement sur la science. Et même si, étant enfant, on n'était pas forcément concentré sur ça, avec le recul et en revoyant la série, en revoyant ces différents épisodes, on se rend compte que finalement Star Trek était une utopie scientifique et qu'elle nous disait en quelque sorte cette série, de toute façon, aller dans l'espace, c'est d'abord et avant tout pour y faire des sciences. Aller dans l'espace, c'est d'abord et avant tout pour expérimenter, tester de nouvelles théories scientifiques, expérimenter à l'épreuve des faits, par une méthode comparatiste notamment, nos connaissances sur l'univers. Et Spock, à chaque épisode, quels que soient les événements, quelle que soit l'ampleur dramatique, revenait toujours sur cette question-là, qu'est-ce qu'on peut apprendre scientifiquement dans l'espace ? Loin de la Terre, loin du monde, qui a vu, qui est le berceau de l'humanité en quelque sorte, et qui finalement n'est pas le seul laboratoire que nous possédons. Et le message de Star Trek, c'était évidemment à travers Spock, l'univers est un immense laboratoire, l'univers est une promesse pour faire des sciences, saisissons-nous de ce laboratoire. Et voilà, c'est vraiment ça qui m'a donné envie de faire cette table ronde avec vous, et donc de tous vous inviter, Elisa, Simon, Anthony, et bien sûr Daniel qui en est le modérateur. Et voilà, ça c'était vraiment ce que je voulais dire pour commencer. C'est ce qui paraît parfois le plus naïf, contient peut-être en lui au contraire la quintessence de ce qu'est la science-fiction, c'est-à-dire bien allons faire des sciences dans l'espace. Et je pense que c'est un beau message, et c'est par ça que voilà, je voulais commencer. Merci.
Et donc le problème quand on se pose la question et qu'on doit modérer, c'est qu'on j'ai fait un travail normal qui est d'aller voir qu'est-ce qu'on mène comme expérimentation scientifique dans l'espace et qu'est-ce qu'on entend par faire des sciences dans l'espace. Il se trouve qu'il y a effectivement énormément de recherches actuelles de physique fondamentale qui passent par de l'observation, de l'expérimentation en milieu spatial. Par contre, il n'y a pas d'idée spécialement actuellement d'envoyer particulièrement un scientifique dans l'espace ou de retrouver une vraie révolution de la physique par, je veux dire, cette figure du Spock, cette figure du scientifique qu'on va emmener se confronter à l'expérience. Par contre, et là où il y a la vérité, il y a deux vérités justement qui sont liées à cette idée de Spock, c'est qu'il y a énormément de chances pour y aller, il y a énormément de chances pour y rester, et si je devais faire un parallèle avec les programmes contemporains, le fait que Spock soit uniquement logique et pratiquement un robot, d'ailleurs quand il va être remplacé par un androïde dans les séries qui suivent, voire par un hologramme par la suite, que ça par contre ça correspond tout à fait à la réalité contemporaine. On envoie des robots pour tester les théories dans l'espace, pour faire suite un peu à ce qu'expliquait Roland Le Houx ce matin, dans les prochaines missions qui vont arriver. Je ne parle pas de missions d'exploration, on va prendre des données, mais il y a notamment l'envoi pour aller vérifier la robustesse des théories de la relativité générale. On va aller tester si effectivement les principes sur lesquels sont fondés un des grands pans de notre physique sont encore vérifiables dans l'espace. Donc notamment, on va aller tester le fait que, comme il montrait ce matin, en fait, qu'effectivement, dans le vide, deux corps vont tomber exactement à la même vitesse. Et le fait de tester ça dans l'espace avec des sondes permet d'avoir une précision de 10 puissance moins 15 et non pas 10 puissance moins 10. Hein, ce n'est pas les bons chiffres de base, mais c'est quelque chose qui est très peu sexy en termes de récit. Et comme je disais, le vrai moment de recherche scientifique dans l'espace, si je voulais prendre le cinéma actuellement, c'est Interstellar. C'est le moment où il ne se passe rien. C'est-à-dire pendant que l'équipage est en train de surfer sur une vague absolument génial au niveau cinématographique, celui qui fait vraiment de la science, c'est celui qui reste tout seul pendant plus de 20 ans à prendre des données dans un trou noir qu'on nous détaille pas dans le film parce que de toute façon on pourrait pas comprendre, et lui il fait vraiment de la science dans l'espace. Donc c'est pas ce dont on va parler là, parce que sinon il aurait fallu que celui qui était là, qu'Étienne Klein, reste en fait et qu'on rentre vraiment au vif du sujet. On va plutôt se concentrer sur la science pour aller dans l'espace, la science pour y rester, et en fait la place des disciplines scientifiques dans la conquête ou l'exploration spatiale. Et donc un peu plus sur un mode de ce qui se passe dans Seul sur Mars, où l'ironie de la chose, c'est que le seul scientifique qui reste sur place, c'est celui qui est le plus déconsidéré par ses camarades, parce que lui n'est pas physicien, donc il ne fait pas partie de l'aristocratie scientifique, il n'est que botaniste. Ce qui ne va pas l'empêcher, tout à fait comme Spock, et pour reprendre cette phrase sublime en anglais, hein, « the science the shit out of it », qui est une phrase merveilleuse en anglais, donc je vous ferai la version française un peu plus tard. Mais donc, pour reprendre ça, et là je me tourne vers Elisa en premier, on en parlait tout à l'heure, et on va justement essayer d'avoir un petit horizon un peu plus réel là. Qu'est-ce que ça implique, l'effort scientifique actuel, et ce lien, parce que quand on est dans le récit de SF, on est surtout dans la technoscience en général, on n'est pas, donc, comme je disais à l'instant, dans la science fondamentale. Qu'est-ce qu'il faut qu'on redécouvre, qu'on découvre quelles sont nos limites actuelles, tant en termes pratiques qu'en termes théoriques, pour, de manière viable, aller explorer l'espace, en prenant Mars comme nos plus proches voisins?
Alors, c'est une, vaste question. Donc, c'est vrai que, déjà, avant d'aller dans l'espace profond, il faut déjà décoller, c'est vrai. Donc, en termes de fusée, tout simplement, si on veut envoyer quelqu'un sur Mars, eh ben, il faut qu'on ait des capacités de lancement assez colossales, hein, parce que, comme j'ai déjà dit à la table ronde d'avant, en fait, faudrait au moins un vaisseau de la, qui aurait la même masse que la station spatiale internationale, donc en gros 500 tonnes, si on veut pouvoir envoyer un équipage de 4 à 6 personnes, quoi. Donc déjà, il faut être capable de mettre 500 tonnes en orbite terrestre. Actuellement, Ariane 5 est capable de mettre 20 tonnes en orbite à chaque lancement, donc ça fait un certain nombre de lancements qu'il faudrait. Les Américains sont en train de redévelopper un lanceur lourd de type Saturn V qui était capable de mettre entre 100 et 150 tonnes hein, selon l'orbite qu'on considère. Donc finalement, peut-être que 5 lancements de ce type-là suffiraient. Et ensuite, y a la question de, une fois qu'on est en orbite terrestre, qu'on a le véhicule est prêt à partir, quelle propulsion on utilise ? Donc là-dessus, il y a un peu de philo, quoi. Il y a la philo de « je veux y aller le plus tôt possible ». Et donc, je ne cherche pas à avoir un truc que je peux réutiliser à chaque voyage. Par exemple, c'est vrai que dans Sol sur Mars, on voit que le vaisseau, finalement, il fait un aller-retour et puis il y retourne. Et en fait, c'est un vaisseau qui peut faire X aller-retour. En vrai, je pense que la première fois qu'on ira, on utilisera une propulsion qu'on connaît déjà et qui est du one-shot, qui est du jetable. Avec des gros bidons remplis d'oxygène et d'hydrogène et puis un moteur qui crache du feu et rouler jeunesse, quoi. Et pareil pour le retour, un moteur à propulsion chimique qui sert une seule fois et à la fin on rentre dans l'atmosphère avec un bouclier pour se protéger comme l'ont fait les astronautes qui rentraient de la Lune. Donc ça, c'est l'optique, je veux y aller le plus tôt possible. Et si je pars sur cette option-là, c'est clair qu'il faut être prêt à accepter un certain risque, puisque finalement, on ne peut pas se permettre typiquement de redondance, hein, on ne peut pas se permettre de mettre deux... De toute façon, s'il y a un moteur qui casse et qui explose, il va casser le moteur d'à côté. Il y a peu d'espoir de réussir à arriver à un risque nul ou en tout cas de vraiment diminuer significativement ce risque. Hein. Donc, les estimations qu'on a fait plutôt côté Association Planète Mars, c'est qu'en gros, on ne peut pas vraiment espérer descendre en dessous d'une chance sur 20. Hein. Mais il y a des astronautes qui sont complètement prêts à prendre ce risque-là. Et il y a l'autre philo qui est « Non, mais aujourd'hui, c'est trop risqué. Donc, il faut attendre d'avoir des technologies plus développées, type propulsion électrique de très forte puissance, pour pouvoir faire des véhicules qui, finalement, peuvent faire des allers-retours de façon beaucoup plus pérenne, envoyer des missions, finalement, tous les 2 ans, à chaque opportunité, établir une base permanente là-bas, etc. » Donc ça, c'est sûr que si on commence à raisonner en mode « Je veux établir une base permanente là-bas », il faut un moyen... pérenne, réutilisable, renouvelable et pas du one shot. Là-dessus, voilà, il y a les deux philos qui s'affrontent parce que il y a la volonté de je veux y aller demain et puis il y a la volonté de je veux y aller sans prendre de risques. Et donc là-dessus, moi, il y a une phrase que j'aime bien, un comparatif que j'aime bien, c'est qu'on dit quand même que Christophe Colomb, il n'a pas attendu le Concorde pour traverser l'Atlantique. Hein, il est parti avec les moyens qu'il avait à l'époque. Et dans cette philo-là, on peut y aller avec les technologies d'aujourd'hui, moyennant certes de finir le développement du lanceur lourd, et puis quand même, il y a une importante difficulté technologique aussi aujourd'hui, c'est tout ce qui est le système de support de vie, parce que si on ne veut pas emmener trop de choses, il va falloir être capable de recycler plein de choses. Hein, et donc typiquement, tout ce qui est eau, faut que tout soit en boucle fermée. Hein, on recycle l'urine, pas seulement 3 fois comme sur l'ISS aujourd'hui, mais à volonté. Il faut être capable aussi d'utiliser les ressources de la planète sur place pour produire de l'eau ou d'autres choses qui peuvent nous servir. Il y aura sûrement une serre pour être capable de produire un petit peu de nourriture là-dessus. Puis même la serre peut avoir aussi un effet psychologique, hein, s'occuper des plantes, etc. c'est ce que disent on va pas dire les astronautes, mais disons que les passionnés qui ont été enfermés 500 jours sur Mars 500, hein, ils disaient que avoir une serre, ça avait été un réconfort. Il y a toutes ces quand même des technos qui restent à développer, mais qui sont quand même accessibles à un horizon. Il faut la volonté politique, quoi. Et après, si on part sur des concepts, plus si on se projette dans un horizon de plusieurs dizaines d'années où on a régulièrement des missions vers Mars, etc., là, on va s'orienter vers de la propulsion électrique de très forte puissance.
Et est-ce qu'on saurait faire, dans l'état des sciences et techniques actuelles, est-ce qu'on saurait développer ce genre de moteur, ou est-ce qu'il y a encore...
On comprend toute la physique qui est associée à la fission, donc un réacteur nucléaire, hein, on les fait fonctionner dans les sous-marins, déjà. Donc, en termes d'ordre de grandeur de la puissance qu'il faudrait, finalement, un réacteur spatial, ce serait comparable, en termes de masse d'uranium, etc., etc., à ce qu'on a dans les réacteurs dans les sous-marins. On estime que ce truc-là, c'est de l'ordre du faisable, moyennant qu'on y mette les moyens. Donc c'est pas juste une hypothèse. Hein. Il y a déjà des réacteurs nucléaires dans l'espace. Il y a eu, en fait, il y en a 48 qui ont été lancés par les Russes, et il y en a un qui a été lancé par les Américains, qui manque de bol à cause d'une défaillance d'un circuit électrique qui n'avait rien à voir avec le cœur ou d'autres points qui paraissaient plus difficiles techniquement, qui finalement n'a pas fonctionné. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui a déjà été bien avancé. Il y a une autre technologie de propulsion nucléaire sur laquelle les Américains et les Russes ont beaucoup travaillé, qui est la propulsion nucléaire thermique, qui en gros est deux fois plus performante, enfin consomme deux fois moins qu'un moteur de type Vulcain, celui qu'on a sur Ariane. Et ça, ils ont fait des essais dans le désert du Nevada. Le principe, c'est de chauffer de l'hydrogène dans un réacteur nucléaire et puis de l'éjecter. Comme l'hydrogène est très léger, en fait, ça va permettre une excellente performance. L'inconvénient de ce truc-là, concrètement, ils étaient à un niveau où, en fait, eux, après la Lune, effectivement, ils continuaient. Et puis, ils disaient, pour aller sur Mars, on va faire un truc encore mieux et on va faire ce truc avec un réacteur nucléaire. Une des difficultés, c'est qu'en fait, là, c'était un moteur qui fonctionnait en boucle ouverte. Donc, finalement, l'hydrogène, il allait le long du réacteur. Il se faisait réchauffer par les neutrons, hein, finalement. Et cet hydrogène était éjecté. Et donc, quand on l'essayait concrètement dans le désert, là où c'était essayé, il y avait potentiellement des particules radioactives qui pouvaient sortir, donc des produits de fission qui pouvaient sortir de la gaine du combustible, parce que tout ça, effectivement, il y a une barrière quand même qui est là, qui est la gaine du combustible, mais si ça chauffe trop, ça peut casser, etc., et donc ça peut relâcher des produits de fission dans l'atmosphère, alors que concrètement, tous les systèmes nucléaires aujourd'hui ont au moins trois barrières de sécurité, et là, ce truc-là n'en avait qu'un. Du coup, aujourd'hui, c'est quelque chose que, enfin, nous, côté européen, on considère plus du tout à cause de ces problèmes très concrets de « je peux pas l'essayer, quoi. Je peux pas l'essayer au sol ». Par contre, il y a encore beaucoup d'Américains qui travaillent beaucoup là-dessus, parce que finalement, ils avaient quasiment la technologie, quoi. Et sur tout ce qui est propulsion avancée pour aller sur Mars, il y a encore beaucoup de débats entre les spécialistes. Donc il y a tous ceux qui du coup défendent mordicus qu'il faut de la propulsion nucléaire à tout prix et de la propulsion nucléaire thermique parce qu'on a presque la techno, on y est presque. Puis il y a ceux qui disent faut y aller tout de suite, on peut y aller avec une propu type Apollo. Et puis il y a ceux qui disent oh là là, la propu nucléaire en boucle ouverte c'est un peu sale quand même, on saurait faire quelque chose qui en plus pourrait servir à des missions plus lointaines, hein, parce qu'avec 1 mégawatt, alors, ce qui est très très loin de ce qu'on sait faire actuellement, avec 1 mégawatt, on est capable de faire un retour d'échantillon de Titan en 6 ans, quoi. Donc c'est la propulsion nucléaire électrique, c'est un truc qui peut ouvrir des perspectives bien au-delà des missions martiennes, habitées ou non d'ailleurs.
Et donc, pour raccrocher dans les scénarios, parce que là on voit qu'on est quand même assez avancé sur le côté de la science pour aller dans l'espace, il y a quand même beaucoup de choses qu'on saurait faire, donc on n'a pas de problème de changement de paradigme scientifique ou de découverte d'autres sources d'énergie.
Il y a quand même, bien sûr, il y a plein de petits points durs quand même à lever, c'est-à-dire que typiquement le réacteur nucléaire, il faudrait qu'il fonctionne à des températures plus élevées que celles qu'on maîtrise actuellement sur Terre. On ne peut pas le refroidir avec l'eau, ce serait beaucoup trop lourd, donc on refroidirait avec du métal liquide ou avec du gaz. Donc les températures, c'est de l'ordre de 1500 degrés Celsius. Et il faudrait que ce truc-là soit capable de fonctionner pendant du coup plusieurs années, hein, si on veut le résister plein de fois. Et un des gros problèmes quand même, c'est les matériaux, parce que il faut des matériaux capables de tenir ces températures-là pendant éventuellement 10 ans, si on veut pouvoir s'en servir plusieurs fois. Donc il y a quand même des points qu'on peut pas vraiment dire que c'est des points de blocage, mais où clairement il faudrait investir sérieusement des activités un peu de recherche poussée sur ces matériaux très haute température, qui, ceci dit, aurait sûrement plein d'autres applications intéressantes.
Donc maintenant qu'on a réussi à décoller, l'idée quand même, c'est quelle serait donc la place du scientifique dans des programmes d'exploration. Et là, on va décoller un peu de la réalité. Il n'y a pas de raison, parce qu'on a des tonnes d'exemples, je veux dire, en littérature et au cinéma. Mais on va rester un peu sûrement en littérature. Et là, je me tourne vers mes deux voisins qui ont sûrement en tête des exemples de la manière dont, en science-fiction, on a envisagé, imaginé la place du scientifique dans l'espace.
Je vais reprendre sur Star Trek brièvement et revenir à un exemple littéraire antérieur qui est une des inspirations de cette logique d'exploration. Mais effectivement, Star Trek, en un sens, ils utilisent des warp drives et la téléportation. C'est quand même plus simple pour aller d'un endroit à un autre de supposer que il suffit de le faire. Bon. Mais donc, une fois qu'on a réglé ce problème, effectivement, ce qui nous prendra encore quelques temps, je pense, la question, effectivement, se pose de savoir ce qu'on va faire. Alors, quand on représente ce genre de choses, que ce soit en littérature ou à l'écran, il est relativement peu intéressant, même si on peut le faire ponctuellement pour un film ou un autre, de représenter ce qu'est pour l'instant la réalité de l'exploration spatiale, c'est-à-dire représenter des robots, des sondes, des objets inanimés ou plus exactement téléguidés organisés depuis la Terre. Alors la NASA arrive à très bien à faire des histoires, à faire du storytelling à partir de ça, et peut-être qu'on en parlera un petit peu tout à l'heure. En revanche, la représentation de ce que c'est que d'aller effectivement faire un travail de terrain de scientifique, ça donne lieu, notamment dans Star Trek, à des situations assez, finalement, assez cocasses d'individus qui, pour qu'il se passe quelque chose, méconnaissent la plupart des protocoles scientifiques. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se passe quelque chose. Or, une chose que j'entendais tout à l'heure à l'autre table ronde, justement, sur la question, c'est l'obsession du risque zéro. Il y a une obsession du risque zéro qui est tout à fait louable, mais qui consiste à dire que finalement, on peut aller faire des expériences, mais l'essentiel, c'est que personne ne soit mis en danger. Alors, c'est une très bonne chose dans la réalité. Dans la fiction, ça ne ferait pas forcément des histoires passionnantes. Au contraire, il y a toujours quelque chose qui dérape. Et je pense, par exemple, à ce film, dont je ne sais pas s'il est diffusé en France, mais qui est Europa Report. On parlait d'Europe tout à l'heure aussi dans une autre table ronde, justement, sur le fait que Europe était un des lieux potentiels où on pouvait envisager de trouver de la vie. Globalement, un film qui représente cette possibilité, qui est un film tout à fait bien fait, s'appelle Europa Report, donc présente sous la forme du found footage, l'idée qu'on a une espèce de pseudo-documentaire où on a récupéré des vidéos là-dessus. On voit une équipe scientifique qui va explorer, qui essaye de faire des choses. Mais tous leurs actes, forcément, au départ inspirés par des protocoles scientifiques, aboutissent à des problèmes. C'est-à-dire qu'il faut forcément que, tôt ou tard, on ouvre la porte à l'inconnu et aux problèmes. Ça, c'est, disons, une condition dramatique. C'est ce qui fera que, malgré tout, on n'a pas tellement intérêt à ce que la réalité ressemble à la fiction sur ces aspects-là. Et j'aimerais revenir brièvement sur une représentation assez ancienne, antérieure à Star Trek, qui est celle du voyage scientifique, qui est, et on revient à cette question du bateau et de l'exploration par bateau, c'est celle du Space Beagle, de la faune de l'espace. En fait, la faune de l'espace de Van Vogt représente finalement une exploration, alors c'est que quelques nouvelles finalement, mais représente une exploration dans laquelle des équipages, un équipage d'un vaisseau spatial, finalement va au-devant de nouvelles réalités, voit ce qui se passe sur d'autres planètes, fait des examens biologiques. Bon, et évidemment, rien ne se passe correctement puisqu'ils sont confrontés à des créatures qui, à chaque fois, mettent en difficulté les compétences biologiques et les compétences physiques des uns et des autres. Et en fait, au-delà, le but, ce n'est pas de raconter ceci, mais d'arriver à une idée importante qui est à la fois au cœur de la représentation en littérature et au cinéma et, je pense, de la motivation d'un certain nombre de scientifiques actuellement encore, qui est l'idée de ce que ça signifie que d'avoir un être humain plutôt qu'un programme, plutôt qu'un robot ou un drone sur le terrain. Et de ce point de vue-là, en dehors du fait que ça fait sujet d'expérience, c'est-à-dire qu'on voit directement s'il survit ou pas, c'est pratique, mais en dehors de cela, il y a cette idée qui est une constante dans la science-fiction, qu'une des grandes qualités humaines, à la source notamment de la science et des progrès scientifiques, c'est l'intuition. Or, cette intuition-là, elle est portée à la puissance, je ne sais combien, par Van Vogt, qui suppose, qui nous met en scène un individu, un scientifique qui est le scientifique de la science. C'est l'hyperthétique, il me semble bien. Donc, il est spécialiste d'hyperthétique, ce qui consiste à combiner toutes les autres sciences. Et en fait, en pratique, on retrouve un peu ça dans Seul sur Mars, par exemple. C'est-à-dire l'idée que, finalement, un individu va devoir se transformer quasiment en scientifique universel. Qu'il va falloir qu'il se débrouille avec un peu tout. Et avec cette idée qu'il va falloir faire converger toutes les sciences et que, faire des sciences dans l'espace, ça veut dire non pas avoir un protocole expérimental forcément extrêmement calibré où chacun pourra faire ses petites choses dans son coin, mais ça implique une collaboration de tous les instants et une convergence de tous les savoirs. Et donc, ça fait partie de ce qui inspire ce rêve, cette idée de partir dans l'espace, c'est l'idée que, d'une certaine façon, il faut réinventer la science elle-même. C'est-à-dire que c'est l'endroit, c'est une frontière aussi pour l'intelligence et la capacité humaine à faire progresser ses propres connaissances.
Effectivement, il y a ce problème de partir dans l'espace. Il y a aussi le problème du récit, finalement. C'est quel sens est-ce qu'on met à partir dans l'espace et aller voir ailleurs si les choses peuvent être différentes ou si, effectivement, est-ce qu'il y a des choses à explorer qui sont nouvelles. Et je crois que Daniel, tu as repris avant la notion de changement de paradigme. Et quelque part, ce qu'on attend d'un scientifique qui irait dans un autre endroit sur Mars ou ailleurs, c'est qu'il trouverait quelque chose qui modifierait notre paradigme de compréhension de l'univers, notre paradigme qui serait au centre comme ça de nos sciences. Et au fond, tant qu'il n'y a pas ce changement de paradigme, je ne suis pas sûr qu'on s'intéresse tant que ça à ce phénomène de voyage dans l'espace. C'est peut-être ce qui peut manquer pour la NASA et d'autres, c'est de faire un récit qui soit stimulant pour que justement il y ait les moyens pour partir dans l'espace, pour faire ces voyages, c'est que voilà, est-ce que ça va amener quelque chose de neuf, est-ce qu'on va changer de sens, est-ce qu'on va changer de paradigme, et voilà peut-être une des limites entre guillemets financières pour les comptables de nos États pour partir dans l'espace. Et c'est peut-être ça qui fascinait aussi dans Star Trek, c'est que ces objets fabuleux que rencontrait l'équipage de l'USS Enterprise, ça provoquait quelque part comme ça une espèce de choc cognitif ou de vertige cognitif où tout à coup le paradigme qu'on avait ne fonctionnait plus. Tout à coup il faudrait un nouveau paradigme mais on ne sait pas lequel. Et tout l'émerveillement c'est cette transition entre deux paradigmes. Comme ça un peu ce moment où on passe d'un paradigme à l'autre. C'est un peu ce que j'ai ressenti avec l'exploration de la comète là en ce moment. Là, on a ce robot qui est sur la comète. Et au fond, alors quand il a atterri, il y a un moment d'émerveillement pour la performance technologique. Mais depuis, j'ai l'impression que pour les médias et autres, il n'y a plus trop de choses à dire parce qu'au fond, ben, on collecte des trucs sur un pourcentage d'oxygène, d'un machin de trucs. Mais on ne voit pas quel changement de paradigme apporte vraiment les explorations de la comète. Alors peut-être qu'on apprendra des choses sur la panspermie, par exemple, ou sur la diffusion de la vie dans l'univers. Mais les scientifiques ne sont pas arrivés à des constats ou des certitudes qui permettent d'affirmer un changement de paradigme. D'où une espèce de flottement, si on veut, des médias ou du récit. Donc c'est peut-être ça aussi qui est contingent au fond au travail du scientifique, c'est qu'il y a ce moment où on a envie qu'il trouve d'autres paradigmes, mais on ne peut pas les prévoir à l'avance, évidemment. Je veux dire, il faudra un moment de recherche, de travail scientifique comme ça pour peut-être arriver à ce paradigme. D'où le récit et d'où comment transformer ça en récit. Quoi. Donc voilà.
Mais c'est vrai que quand on regarde, quand je me suis intéressé, quand on regarde les expériences actuelles, quand on va sur simplement le site du CNES, le site de l'ESA, on a des expériences qui sont notées donc en sciences fondamentales. Donc là, on est dans cette idée. Et qu'est-ce qu'on fait actuellement ? On teste la robustesse de nos paradigmes actuels. Et il y a même un côté extrêmement concret. On revient presque à une science empiriste anglaise du 8e siècle. C'est-à-dire qu'on va voir jusqu'à où ça s'applique. Est-ce que ce qu'on dit actuellement, ce qu'on imagine de l'univers, est effectivement vrai ? Et de manière très très simple, on va regarder le plus loin possible, de manière extrêmement complexe, mais finalement pour des choses assez simples.
Alors, je pense aussi qu'il y a quand même tout un aspect sur les missions d'exploration qui est du recueil de données. Voilà, donc vraiment plein de... une quantité d'informations phénoménales, en fait, hein, qui arrivent grâce à ces sondes. Et finalement, le truc, c'est que je pense qu'il y a déjà tellement de travail pour exploiter les données qu'on a déjà avec les missions qui sont déjà parties, que c'est un travail vraiment monumental. Et où finalement on n'est pas, on n'est pas assez nombreux entre guillemets, il n'y a pas assez de scientifiques qui bossent là-dessus. Enfin, c'est-à-dire que il y a vraiment tellement de choses quand même à apprendre. Alors certes, c'est des petits pas, hein, c'est des petites choses peut-être pour le commun des mortels entre guillemets, mais c'est vrai que faut déjà qu'on traite tout ça, quoi. Donc avant de restituer quelque chose qui change le paradigme, etc. Et puis il y a aussi quand même toute cette cette pratique quand même de rigueur qui fait qu'on n'annonce pas un résultat comme ça. Et donc finalement c'est vrai, quand on a annoncé l'eau liquide qui coule sur Mars là récemment, en fait c'est des choses que on observe depuis des années, mais c'est seulement, donc c'est pour ça que ça n'a pas fait non plus une grande révolution. C'est parce qu'en fait il y a plein de gens qui savent ça depuis longtemps, c'est juste que là ça a été relu, validé, corroboré, X mesures par-ci, X mesures par-là, et donc il y a tout un travail de validation. Le moindre truc, le moindre doute fait que il y a vraiment tout un travail et des données à traiter qui sont énormes. Et finalement la science on la fait pas mal sur Terre, en fait, c'est-à-dire on récupère les données dans l'espace, mais tout ce qui est l'intelligence entre guillemets d'exploitation de ces données, elle se fait sur Terre. Et d'ailleurs, elle peut même se faire par chacun d'entre nous à aider à traiter toutes ces données énormes. Et alors, je crois qu'il y a un site internet qui s'appelle Galaxy Zoo ou un truc comme ça, donc le zoo des galaxies, où on demande à qui a bien 5 minutes à perdre d'aller regarder des galaxies et de les trier selon certains critères. Et ça aide en fait la communauté scientifique à permettre de peut-être, celle-là, elle correspond à aucun critère, elle rentre dans aucune case, je vais aller la regarder de plus près. Sauf que il faut des yeux humains, entre guillemets, pour traiter toutes ces données. Et il y a tellement d'informations déjà aujourd'hui et qui sont passionnantes, qui font que c'est vrai qu'on n'est pas encore dans le changement de paradigme. Peut-être aussi parce qu'on reste finalement en très proche banlieue. Hein.
Juste pour rebondir, en fait, par rapport à Star Trek, la réponse est relativement simple. Le paradigme, entre guillemets, le modèle de pensée a déjà changé, puisque l'espace est devenu finalement ce laboratoire où on peut aller visiter les planètes, etc. Est-ce qu'on peut montrer, j'avais amené une deuxième image, hein, un autre monsieur Spock, je ne sais pas si vous l'avez gardé. Voilà. Alors ça, c'est Sheldon dans Big Bang Theory, qui est déguisé en Spock, comme vous voyez bien, avec les oreilles pointues. Mais ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il tient dans la main, le tricorder, qui permet, dans la série originale de Spock, de faire des relevés et justement, pour répondre à Elisa, d'accumuler des données. Et en fait, ce serait un peu facile de se dire, la science-fiction, on parle tout le temps de changement de paradigme, mais finalement, le vrai travail scientifique, effectivement, que ce soit la science de l'espace ou la science dans l'espace, c'est d'abord et avant tout d'accumuler des données. Mais en fait, c'est ce que fait tout le temps Spock. Là, ici, Sheldon déguisé en Spock, mais pareil, là, Sheldon analyse des données sur une soirée déguisée. Donc, il s'est déguisé, évidemment, pour étudier les extraterrestres étranges qui sont les humains normaux qu'il fréquente, évidemment, et qu'il ne comprend pas du tout, tel Spock Vulcain ne comprenant pas les humains. Et en fait, la collecte de données est inscrite dans le patrimoine génétique de Star Trek. Et on peut même penser, finalement, que Spock a été très malin, j'ai une théorie, c'est qu'en fait, il a intégré Starfleet que pour être dans un équipage d'humains qui commettent des erreurs. Donc il se passe quelque chose et lui peut accumuler des données. Donc finalement, il y a quand même ces données qui sont là aussi. Et c'est pour ça que cette science-fiction, elle n'est pas non plus détachée des réalités de la science. Elle montre bien aussi que la science est d'abord et avant tout, d'ailleurs Spock est toujours très prudent, avant de formuler une hypothèse, presque il dirait toujours « mes données sont insuffisantes, je ne peux pas m'exprimer, c'est fascinant, mais je ne sais pas encore ce qu'il faut dire ». Et ça, on le voit bien, et dans la série originelle, hein, dans la série des années 60. Après, c'est vrai que le récit... parfois, on aimerait bien que les scientifiques nous racontent le futur. Elisa, tu nous as raconté la manière dont les étapes qui vont arriver, qu'enfin on va pouvoir faire des vaisseaux spatiaux qui vont être réutilisables, et on ne sera pas dans des one-shots tout le temps. On commence à avoir un récit, et c'est vrai que les gens ont besoin de cette perspective, peut-être pas tellement d'un changement de paradigme, mais peut-être d'un conte, en fait. Où sont nos contes spatiaux, quoi, le conte de l'espace. Il était une fois la conquête spatiale.
Je peux proposer un candidat au moins assez cohérent avec notre propos, ce qu'on a dit jusqu'ici, c'est la trilogie de Kim Stanley Robinson sur Mars, qui n'est pas le seul livre sur Mars, loin de là, mais qui pour le coup est clairement un, comment dire, si on est sur l'idée de faire des sciences dans l'espace, ce qui est assez formidable dans l'idée de Robinson, c'est finalement de faire de Mars tout entière une sorte de laboratoire, de champ d'expérimentation de tout ce qui serait possible à partir d'éléments qui sont des éléments relativement peu anticipés de son époque. Alors, peu, mais bon, il y a quand même des anticipations. Et il projette en fait sur Mars toute une série de progrès possibles et d'actions possibles à partir d'une poignée d'individus. Et avec cette idée qu'on pourrait expérimenter en quelque sorte sur Mars toute une série de techniques qui sont des techniques de terraformation qui permettent de modifier radicalement la composition de l'atmosphère d'une planète, par exemple, il représente la construction d'un ascenseur spatial, ce qui, parmi les projets qui n'ont pas été mentionnés, alors je ne sais pas si ça compte dans la propulsion, mais c'est, disons, une des options envisageables pour, à moindre coût, emmener des matériaux dans l'espace. Mais, bien sûr, les problèmes techniques sont encore insurmontables pour cela, mais Robinson nous représente ce que ça donnerait et les implications que ça aurait à la fois d'un point de vue géostratégique en quelque sorte et tout simplement pratique. Donc il y a cette idée qu'on passe, avec ce type de récit, on passe à une étape supplémentaire. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement d'aller avec une équipe et de recueillir des données, même si en soi c'est louable. Il s'agit effectivement de transformer clairement l'univers en une... en gros, en un champ d'expérimentation et un champ d'action. Et il allait encore plus loin dans un roman récent, beaucoup plus, assez aride aussi dans son genre, ce qui est 2312, dans lequel il représente notamment le fait qu'on puisse transformer tous les astéroïdes en habitat, en fait, et d'une certaine façon, tous les astéroïdes du système solaire deviennent des lieux de vie et des lieux d'expérimentation. C'est-à-dire que chacun va créer son astéroïde à sa manière, on va tester des choses. Je ne vais pas développer parce que le temps va nous manquer, mais il y a cette idée aussi, et ça fait partie des aspirations possibles dans la science-fiction, cette idée que finalement l'univers est un lieu d'expérimentation.
Et avant de prendre quelques questions, je vais juste me tourner un dernier moment, là du coup pas vers l'ingénieur du CNES, mais... Vers celle qui voudrait explorer Mars. Selon toi, l'intérêt de mettre un humain plutôt qu'une sonde?
Alors, je vais quand même être honnête sur le coup, je pense que c'est pas la science.
Voilà.
Je pense que c'est pas la science, je pense que c'est un peu comme tu disais tout à l'heure, quoi. Il y a une montagne, elle est là, on y va, quoi. Le mec qui va en haut de l'Everest, c'est pas pour aller étudier des bactéries extrémophiles. C'est une envie d'aller plus loin, une envie de découvrir un monde nouveau, et puis c'est vrai, il y a un peu ce côté, j'aime bien ton expression de « elle est là, quoi, c'est juste à côté, pourquoi on n'y va pas ?» Donc c'est vrai que sur tout l'aspect vraiment purement scientifique, finalement, ça me fait un peu mal de lire, mais c'est vrai que je pense que les robots font un super boulot, et c'est que le début de l'ère des robots, c'est vraiment que le début. Donc ils pourront nous remplacer avantageusement quand même sur les aspects purement scientifiques. Par contre, peut-être on fera des progrès tels dans l'intelligence artificielle qu'on pourra vraiment, il pourra vraiment nous raconter le robot, ce qu'il vit et tout ça. Mais c'est vrai que les astronautes, ils sont aussi là. Enfin, ce qui est hyper intéressant avec eux, c'est quand ils racontent tout leur vécu. Et c'est ça quand même qui motive vraiment les troupes. C'est quand même suite à la génération Apollo. Eh bien, elle envoie d'hommes et non pas de robots sur la Lune. C'est pas Spoutnik qui a fait qu'il y a plein de gens qui ont voulu faire ingénieurs. C'est vraiment grâce aux astronautes, à mon sens. Donc, le fait que ça pourrait renouveler l'engouement pour les métiers techniques, même pas que les sciences, je parle juste des métiers techniques. Et donc cet aspect-là, aujourd'hui, quand même, le robot ne nous raconte pas. Donc là, on retourne un peu sur l'histoire du récit et que peut-être que le spatial, aujourd'hui, manque un peu de récit. Donc c'est vrai qu'on essaye de donner vie, entre guillemets, à ces robots qui tweetent, etc. Et c'est déjà super sympa. Mais c'est quand même pas pareil en termes de sentiments que ça peut faire, passer, vivre. On vivra pas pareil, quand même, ce que nous raconte un humain que ce que nous raconte un robot, enfin, du moins pour l'instant.
Et Anthony, vous voulez dire quelque chose avant qu'on prenne des questions?
Oui. Il y a un roman de science-fiction qui est sorti il n'y a pas très longtemps, une trilogie qui a été écrite par Laurence Sunner, qui se passe dans l'espace, où justement il y a des scientifiques qui sont envoyés sur une nouvelle planète. Et dans le dernier volume, ce que j'ai trouvé très intéressant par rapport à notre conversation, c'est que...
Spoiler.
Non, il n'y a pas de spoiler. Non, la scientifique qui est là, elle est en face de données qui ne rentrent pas du tout dans les paradigmes de la science terrienne telle qu'elle la connaît. Elle est obligée de passer par d'autres choses que la science pour pouvoir résoudre le problème, c'est-à-dire la philosophie ou la mythologie ou une forme de religion. Enfin, elle est obligée chercher des réponses ailleurs pour résoudre le conflit qui se passe sur cette planète. Et je trouve intéressant parce que dans ce roman, on voit tout le conflit qu'il y a dans le personnage à devoir changer de mode de pensée. Et voilà, j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'effectivement, la science elle-même toute seule a ce problème, effectivement. Et ça, c'est bien mis en scène dans ce roman, notamment. En tout cas, voilà, il y a vraiment un truc intéressant là-dessus. Non, c'est le cycle de Quantica. Voilà.
Et on a 4 minutes, un peu moins, pour prendre 2 questions. Si c'est des questions fermées en oui ou non, on peut en prendre une vingtaine.
Oui. Le micro doit arriver par derrière, je pense.
Bonjour et merci pour cette table ronde. Pardon. Moi, j'ai une question. Imaginons qu'on ait la technologie pour avoir un vaisseau d'exploration spatiale. Vous envoyez quel scientifique dans l'espace? Quelle matière, je dirais, des techniciens, des biologistes? Qu'est-ce que vous envoyez comme scientifique dans l'espace?
L'hyperthétique, justement. Non, alors, je pense que, de ce point de vue-là, il vaudrait mieux envoyer des individus polyvalents, parce qu'on ne peut pas en envoyer beaucoup. Mais si on peut en envoyer une vingtaine, bon, on arrivera à couvrir à peu près tous les champs.
Enfin, c'est beaucoup, en tout cas pour une première mission. Alors, moi, en tout cas, ce n'est pas professionnellement que je peux dire exactement qui il faut envoyer, etc., mais plus du point de vue passionné qui s'intéresse quand même de près à l'exploration de Mars. Je pense que en termes de, pour le coup quand même, ce qui nous apporterait le plus de connaissances scientifiques, ce serait un géologue, puisque c'est quand même une science qui nous permet de comprendre ce qui s'est passé sur cette planète, qui à un moment a quand même été dans des conditions où probablement, il y avait des lacs, il y avait des rivières, et d'ailleurs il y a des très beaux exemples de ce qu'il en reste un petit peu plus loin à droite avec le labo de planétologie de Nantes. Donc, pour comprendre tout ce qui s'est passé, quoi, pourquoi c'est plus là, comment ça a évolué, est-ce qu'à un moment il y a eu de la vie, est-ce qu'il en reste. Donc, je pense que vraiment, peut-être d'un point de vue purement scientifique, le géologue est nécessaire. Après, on pourrait imaginer, bien sûr, on se dit un médecin, quoi, parce que s'il se passe quelque chose, etc. Alors là-dessus, j'ai appris récemment qu'en fait, les astronautes, on leur apprenait quand même un certain nombre d'opérations chirurgicales pour être capable de s'auto-chirurgier. Ou de chirurgier des collègues. Donc tous les astronautes maintenant ont une formation qui leur permet de faire un peu de chirurgie. Et donc typiquement dans Seul sur Mars, la scène, alors c'est pas trop spoiler parce que c'est au début, mais où il se fait une petite opération chirurgicale à lui-même, Michel Tonini, que j'ai rencontré il y a pas longtemps, explique que ça, c'est tout à fait crédible et on leur apprend à être capable de faire ce type de choses pour... pour faire face à une situation où finalement on est à 20 minutes de communication avec la Terre. Ensuite, forcément, effectivement, le côté polyvalent et le côté un peu MacGyver que finalement on retrouve bien dans Seul sur Mars, parce qu'il faut être capable de débrouiller des problèmes, il faut être capable de réparer plein de choses.
Ingénieur, faut oser le dire, on a besoin d'ingénieur.
Ouais, ingénieur ou en tout cas bricoleur, quoi. Parce que c'est vrai que vu le... Enfin, il faut une autonomie à toute épreuve, parce qu'on ne pourra pas toujours être... La distance avec la Terre fait qu'on ne peut pas être aidé vraiment en temps réel. Et du coup, il faut quand même des capacités de maintenabilité du vaisseau. Il faut que le vaisseau, on soit capable de le bricoler, quoi.
Et malheureusement, on n'a pas le temps pour d'autres questions. Mais vous entendez encore beaucoup de choses passionnantes. Merci beaucoup de votre attention. Bon après-midi.